Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Jacques Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes chargé de mission au Centre National d'Études Spatiales, le CNES, chargé de mission sur la dimension éthique des activités spatiales. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels récemment Requiem pour Darwin et Lève-toi et marche, écrits en collaboration avec Jacques Blamont de l'Académie des sciences. Et j'invite d'ailleurs nos auditeurs à écouter cette émission sur Canal Académie. Mais aujourd'hui, le livre qui nous intéresse, c'est « La Terre d'un clic, du bon usage des satellites » aux éditions Odile Jacob. Vous évoquez tour à tour les satellites, Internet et de manière générale les systèmes de surveillance. Alors Jacques Arnoux, est-ce que nous devons faire une différence entre vigilance et surveillance ?
Bien évidemment, je crois que vous allez directement au cœur du sujet, parce que ce que j'ai voulu conclure, donc on est déjà à la conclusion quasiment de mon ouvrage, c'est que sans du tout nier l'importance des questions aujourd'hui de surveillance et des enjeux éthiques, juridiques, du fait que l'on nous regarde sans cesse, qu'il y a des caméras partout dans nos villes, qu'il y a des avions, qu'il y a des ballons parfois, et même des satellites qui nous observent, donc qui nous surveillent, qui regardent le moindre de nos gestes, eh bien, il ne faut pas, à mon avis, s'en arrêter là. On entend beaucoup de gens dire « nous voulons plus de caméras », au contraire, « nous voulons moins de caméras », au nom de la sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Je crois que c'est une réalité qui déjà mérite d'être débattue plus qu'elle ne l'est, mais il faut aller au-delà et se rappeler tout simplement que surveiller, c'est aussi veiller sur, et que le fait de veiller a un côté plus positif sans doute que surveiller, qui est souvent connoté négativement.
Alors, on retrouve bien là votre manière de tempérer les éléments. Pourtant, vous citez dès les premières pages de votre livre George Orwell, qui est connu pour son livre 1984, roman d'anticipation, où Big Brother est la métaphore du régime policier et totalitaire. Alors, y a-t-il une différence entre le Jacques Arnoux que je vois devant moi, qui tempère, et le Jacques Arnoux qui est l'auteur de ce livre ?
Non, j'ai commencé par citer 1984 parce que je crois que dans la tête de la plupart des Occidentaux, tout au moins, il y a toujours, sans avoir nécessairement eu d'ailleurs le roman, Big Brother qui est partout, qui nous surveille, le grand frère d'ailleurs, on pourrait longuement débattre sur le terme qu'a choisi l'auteur de ce roman. Mais justement, c'est partons de ce que nous vivons, de la peur que nous pouvons avoir, de la crainte d'être trop surveillés. Commençons par faire le bilan. C'est pour ça que je cite Orwell. C'est pour vraiment pas tout de suite partir dans les nuages, dans les grands rêves. Non, partons de notre réalité et à partir de là, essayons de construire un discours pas nécessairement plus tempéré. Vous le dites de moi, peut-être que votre lecture a donné cette impression-là, mais j'essaie en tout cas d'être un peu plus lucide, un peu plus, si j'oserais dire, intelligent sur dans quel contexte ces craintes de surveillance eh bien, s'inscrivent-elles. Et on ne peut pas réduire ces questions précisément à Big Brother. Il faut aller au-delà. Big Brother est bien là. Big Brother est bien là, mais il y a plus que Big Brother. En tout cas, il y a manière de voir Big Brother de manière un peu différente.
Alors, vous parlez de lucidité, vous allez pouvoir me dire si là aussi, vous êtes dans le domaine de la lucidité, puisque en préambule du premier chapitre, vous citez Pierre-Joseph Proudhon. Je vais lire les quelques lignes que vous mettez en avant, vous allez pouvoir ensuite commenter. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est être à chaque opération, à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé.
N'est-ce pas ? C'est un anarchiste qui écrit, avec une plume quand même assez enlevée, faut reconnaître, et qui, j'irai une fois la surprise passée, n'est pas très loin d'une partie de nos existences. Je crois que les adjectifs semblent excessifs par leur accumulation, mais pris les uns à côté des autres, dans la vie quotidienne, nous passons par toute cette situation, effectivement, d'être surveillés, ce que nous disions tout à l'heure. Une fois encore, il ne faut pas avoir un côté, comment dirais-je, schizophrénique en moi, où je ne jouerai plus. Simplement, il faut ne pas avoir peur. Vous disiez tout à l'heure, on utilisait le mot de lucidité, c'est-à-dire porter un regard lucide sur notre société. Mais la lucidité, c'est, je dirais aussi, un peu côté translucide, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela ? Qu'est-ce que nous voulons derrière tout cela ? Je veux dire, justement, en jouant les mots avec surveiller ou veiller sur, la mère qui regarde son enfant qui joue dans un parc, a priori, je ne sais pas, si je ne l'ai pas interrogé, quel est son état d'esprit ? est-elle en train de regarder si absolument il ne bouge pas d'un petit doigt, qu'il est bien à sa place, qu'il ne fait pas de bêtises, ou a-t-elle un regard de vigilance où elle laisse son enfant mener sa vie dans les contraintes qui sont celles d'un petit enfant dans un parc où il y a des choses que l'on peut faire tout à fait librement, puis d'autres, c'est un peu plus dangereux. Donc c'est toujours regarder un peu au-delà. Au-delà, mais ça veut donc déjà dire poser clairement un état des lieux. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers les satellites. Que l'on sache un peu de quoi il en retourne, avant d'entendre des tas de choses excessives dans un sens ou dans l'autre. Et puis à partir de là, bien, on se dira quelles sont les questions que nous pouvons nous poser honnêtement aujourd'hui.
Donc il ne s'agit pas de souffler sur les braises de ce courant qui aurait peur du progrès.
Non, surtout pas, parce qu'on doit être... Ce n'est pas une question de peur, c'est une question d'avoir un certain souci, un certain intérêt, une certaine vigilance. Il ne s'agit pas de jouer dans les extrêmes, vive le progrès, et puis de ne pas voir toutes les conséquences néfastes du progrès, ou de dire, parce qu'il y a une conséquence néfaste, à ce moment-là, il faut faire fi de tout progrès. C'est évidemment toujours entre les deux. Ce n'est pas souffler le chaud et le froid, rester dans le tiède, c'est avancer, tout simplement.
Alors, dans votre livre, il y a un mot qui revient souvent, c'est l'éthique. Vous dites que l'éthique est à la mode, notamment l'éthique de l'espace. Vous nous dites d'ailleurs que l'éthique dans l'espace, ce n'est pas nouveau. Depuis Kennedy, on en parle. Et pourtant, un peu plus loin, vous précisez que l'ingénieur, l'innovateur, n'est pas nécessairement prêt à s'encombrer d'un souci éthique.
Oui, oui. C'est l'expérience qu'on peut faire, je ne dirais pas au quotidien, mais que l'on trouve assez souvent, parce que l'innovateur, que ce soit un ingénieur ou tant d'autres, a un esprit particulier, justement, toujours à la recherche du nouveau, du hors normes, de nouvelles frontières à franchir, donc parfois aussi un peu le hors la loi. Et c'est vrai que quand on arrive derrière en lui disant « Mais attendez, mon cher ami, vous vivez au milieu d'une société, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi, etc. », il peut avoir un certain mal à entrer dans une démarche éthique. J'entends bien, avec le mot d'éthique, de ne pas le réduire à une interdiction, comme on a souvent un peu l'impression de le faire. L'éthique, c'est ce qui va nous empêcher d'avancer. Non, l'éthique, pour moi, et pour des esprits bien plus éclairés que le mien, j'en cite quelques-uns, comme Michel Foucault, par exemple, disant « c'est penser et agir ». L'éthique, ce n'est pas réservé à des comités de sages qui sont dans leur petit coin et qui élaborent des pensées fumeuses. C'est évidemment penser, mais aussi agir, c'est penser et agir ensemble. Et je crois que cette proposition de Michel Foucault, déjà ancienne, de définir ainsi l'éthique, est une manière assez juste et en plus applicable. Mon quotidien, c'est de vivre avec des ingénieurs qui envoient des fusées, qui envoient des satellites, qui envoient des sondes, qui envoient parfois des êtres humains dans l'espace. Ce sont des gens de l'action, mais aussi, dès qu'on prend le temps, qui pensent. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a une élaboration. Il faut les rejoindre dans ce travail d'élaboration et d'action pour les aider à penser encore un peu plus. Et ce jour-là, ils découvrent qu'en fait, de l'éthique, ils en ont toujours fait. Simplement qu'ils ne donnaient pas ce nom-là parce que pour eux, c'était une étiquette négative. Quelque chose qui allait les empêcher d'avancer. Une fois qu'on leur a fait comprendre que faire de l'éthique, comme disait un de mes collègues, c'est préparer l'avenir, à ce moment-là, on peut commencer à cheminer et simplement faire, j'allais dire, comme un honnête homme, son travail.
Alors, je le disais au début de cette émission, vous êtes chargé de mission au CNES sur la dimension éthique des activités spatiales. Donc, j'imagine que ce livre est en fait l'objet de votre travail quotidien.
Absolument, ce livre est une des expressions de ce travail, avec une question qui m'était posée il y a déjà plusieurs années par des militaires qui me disaient, bien précisément, quand nous on parle de surveillance du territoire, puisque c'est une de leurs missions, membres l'armée de l'air, mais aussi les armées en général, on voit bien dans l'œil des gens quand on leur parle de ça que c'est négatif. C'est-à-dire, oh là là, encore le gendarme, qu'il soit aérien ou terrestre. Et ils me disaient, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de, non pas de camoufler, de maquiller pour rendre ça plus attrayant, mais quand même, derrière le mot de surveillance, eux avaient le mot de vigilance. Ils m'ont dit, mais essayons de travailler ensemble. Et c'est là-dessus que je me suis mis à la tâche, puisque ça correspond précisément à ma responsabilité au CNES, de pas de penser à la place de mes collègues, mais de penser avec eux dans leurs activités. Et évidemment, la question de ces satellites, de ces yeux qu'on envoie dans l'espace pour nous regarder, eh bien, c'est directement une question d'éthique, c'est-à-dire comment penser le fait de pouvoir nous observer à tout moment et en tout lieu de cette planète.
Vous parlez des militaires, restons sur les militaires. Secret militaire et liberté de parole font-elles bon ménage ? Faut-il tout expliquer aux citoyens ? Et dans votre livre, vous citez un exemple, celui du projet Discover en 1958. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Oui, alors la grande question, c'est que je ne saurais pas répondre, résoudre ici. Il faudrait inviter, je sais que c'est des sujets de discussion entre eux. C'est-à-dire que jusqu'où peut-on dévoiler des secrets d'État ? Parce que dès qu'on approche un peu des questions de pouvoir, des questions de responsabilité, on sait bien qu'entre blocs de pouvoir, eh bien, tout va jouer dans l'information que l'on possède et que l'autre ne possède pas. C'est extraordinaire. Moi, j'avoue, j'ai découvert vraiment l'histoire des satellites espions. Est une histoire, pour n'importe quelqu'un un peu intéressé par l'histoire, de voir les efforts engagés du côté américain comme du côté soviétique. Mais on connaît mieux, peu, mais mieux quand même, le côté américain, les efforts simplement pour pouvoir acquérir des informations dont on a besoin, parce que nous sommes dans les années 60, c'est au moment de la guerre froide. C'est aussi au moment où on commence à engager des traités de désarmement ou de limitation des armes nucléaires. Donc il faut pouvoir être sûr que l'adversaire, l'autre bloc, eh bien, suit ses engagements. Donc il y a des enjeux énormes. Et en même temps, il ne faut pas trop en dire. Alors le problème, c'est un problème politique. C'est-à-dire que comment engager une nation dans des dépenses extrêmement importantes sans lui dire pourquoi ? Et on voit en permanence, et ce serait encore sans doute d'autres livres à écrire, parce que ça dépasse mes compétences, de dire mais comment gérer ça ? Parce qu'on s'est rendu compte que par moment, on a ouvert un peu la vanne en donnant des informations évidemment largement périmées. Les gens se disent, mais attendez, si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien d'investir des milliards de dollars, parce que ce sont des budgets colossaux. Donc, on voit bien que c'est une question qui est au-delà de l'espionnage, je dirais, d'histoire, de roman. C'est une question politique et de démocratie. Je ne rentre pas dans la manière dont, à l'époque, les Soviétiques géraient ce genre de choses, mais pour nos pays en démocratie, c'est vraiment une question. C'est parce qu'on ne peut malheureusement pas tout dire, tout de suite en tout cas. Alors voilà, il y a à gérer. Mais on le sait bien, il ne faut pas non plus accuser nous-mêmes en permanence, quelques niveaux que nous soyons, dans nos responsabilités, dans les pouvoirs qui sont les nôtres. On a à gérer ce que certains ont dit, entre le savoir et le pouvoir. Dès que je communique un peu de savoir, c'est pas mon cas, mais je suis scientifique, je viens à Canal Academy, je parle de mes travaux, donc je communique un peu de mon savoir, immédiatement je perds un peu de mon pouvoir. Alors, comment gérer ça ? Je suis sûr que beaucoup de personnes qui viennent ici ont ça à gérer.
Juste pour resituer, je parlais du projet Discover en 1958. Le projet Discover était expliqué comme étant un projet scientifique et qui, en fait, vous le disiez, était des satellites espions.
Voilà, les premiers satellites espions qui s'appelaient Corona étaient cachés devant un programme scientifique Discover. Mais je pense que pour les spécialistes, c'était à peu près clair qu'il y avait derrière quelque chose de plus gros. On est allé même jusqu'à dire qu'au fond, pour ce qui concerne les États-Unis, où la part du programme militaire spatial est beaucoup plus importante que la part du programme civil, au fond, le programme civil n'est qu'une couverture du programme militaire. C'est un peu excessif, mais parfois, ça a sans doute été le cas.
Alors, votre livre s'appelle « La Terre d'un clic ». Donc, il y a aussi la notion d'Internet dans votre ouvrage. Vous parlez, bien sûr, de Google, car qui n'utilise pas Google pour faire des recherches sur tout ou n'importe quoi ? On utiliserait même le terme maintenant « googlisé », si vous me permettez ce néologisme. Et surtout on utilise ici, notamment comme outil Google Earth, qui nous permet aussi bien de contempler la beauté du monde que de voir la rue dans laquelle habite son collègue. Est-ce que cela est éthiquement dérangeant, Jacques Arnoux ?
Alors, éthiquement dérangeant, je ne sais pas ce que ça signifie, parce que je vous dis, c'est en tout cas, ça pose une question. C'est-à-dire qu'on est de nouveau au cœur de ma petite réflexion. C'est-à-dire que cette question de surveillance, cette question du fait que, pour ce qu'il en est de ce propos, que des satellites tournent inlassablement autour de nous, prennent des photos de plus en plus précises, et que ces photos soient diffusées par Internet de manière totalement libre ou quasiment libre, des photos qui, encore une dizaine d'années, appartiennent au secret défense. Il faut bien se rendre compte de cela. C'est Big Brother. Oui, mais tout ça, comme vous le dites à l'instant, est dans ce grand système de Internet, de googlisation, de ce que vous voulez, c'est-à-dire de diffusion massive de toutes les données et de cette capacité que nous avons, chacun d'entre nous, à acquérir ces données. Et donc, ce qui m'a frappé au fur et à mesure de ma réflexion, c'est que, étant parti de cet œil qui nous tourne autour de nous et qui me regarde, très bien, et qui regarde aussi mon voisin, mais j'en suis venu dire, mais attention, cette question de la surveillance ne s'inscrit pas dans n'importe quelle société, c'est dans une société d'information croissante et de communication un peu moins croissante à mon sens. Mais enfin, en tout cas, l'information circule énormément. D'où le constat que j'ai, j'avoue, cité, pour ne pas dire volé, à un de vos collègues journalistes, Jacques Julliard, qui disait au moment de la guerre du Kosovo, c'était quand même un moment assez particulier pour nous occidentaux, européens, quasiment au cœur de l'Europe, il y avait un conflit armé extrêmement violent, dont nous commencions à avoir des informations à un niveau que nous n'avions pas connu, grâce aux satellites, grâce aux photos aériennes. Tout un chacun pouvait se rendre compte, sur de la matière photographique, de l'ampleur du conflit. Et Julliard disait, nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. Et ça, c'est une nouveauté pour notre civilisation. Il y a encore 60 ans, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la plupart de nos prédécesseurs pouvaient dire, moi, je ne savais pas qu'il y avait des camps de concentration en Allemagne, la plupart d'entre eux. Et donc, d'une certaine manière, dire, voilà, qu'on ne l'accuse pas de ça. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et donc, pour moi, petit à petit, la réflexion à partir d'une fois encore de ces satellites qui tournent, bon, tout bêtement, j'allais dire, en est venue à dire, mais s'il y a un souci qui me semble important aujourd'hui, c'est pas le temps, le fait de me dire où est la caméra qui m'observe, mais ne suis-je pas devenu, moi personnellement, plus responsable de tout être humain qui est aujourd'hui sur cette planète, comme ne l'a jamais été mes prédécesseurs. Donc c'est là que le terme de vigilance prend un côté presque dramatique et tragique. C'est-à-dire, on est dans une ère totalement nouvelle où des mots doivent être revisités. Big Brother, ce mot de brother, de fraternité, Régis Debray nous a fait réfléchir l'année dernière là-dessus, est un mot qui prend un sens, pas radicalement différent, mais différent en intensité, parce qu'aujourd'hui, tout être vivant et tout être humain sur cette planète n'a jamais été aussi proche de moi. Qu'est-ce que j'en fais ?
Alors c'est à la fois dérangeant et en même temps, ça nous permet de prendre conscience de nos responsabilités.
Bien sûr. C'est là que, bon, on peut jouer sur les mots, mais un auteur faisait la distinction entre la mondialisation et la globalisation. Il disait la mondialisation, c'est l'installation de tous ces réseaux de transport, de maritime, puis désormais aérien, commerciaux. Et la mondialisation commence avec l'époque moderne, les grandes découvertes qui sont tout de suite suivies par des grandes organisations commerciales. Ça, c'est le fait qu'on met en réseau différents endroits de la Terre. Mais aujourd'hui, dit-il, par le fait de la rapidité des transports, la rapidité des informations, on a une espèce de prise en masse de tout ça. C'est pas seulement le fait que je peux en quelques heures aller à New York ou en quelques heures aller au Japon ou en Asie, c'est que celui qui vit aujourd'hui à New York ou en Asie m'est très proche sans que j'y sois nécessairement présent. Et donc la conscience que nous appartenons tous à la même planète, que nous appartenons tous à la même espèce humaine et que nous sommes responsables les uns des autres. Et là, je trouve qu'il y a un côté, un peu tragique, enfin tragique au sens que, en tout cas, en ce qui me concerne, ça a pris une espèce d'intensité que je n'imaginais pas avant d'avoir fait ce petit travail, ce petit parcours.
Alors, nous arrivons petit à petit au terme de notre émission. Auparavant, encore deux questions. Je reste centrée sur Internet et sur ce géant qui s'appelle Google. Est-ce que, selon vous, on se dirige vers un monde selon Google ?
Je serais incapable de vous répondre comme ça, mais c'est vrai que notre monde est d'ores et déjà marqué par cet accès immédiat et quasiment illimité. Et en même temps, c'est pas seulement moi qui ai accès à ce système, mais c'est aussi ce système qui influe sur moi. Et là, on peut introduire cette notion que j'ai rappelée, cette notion de noosphère, cette idée qui a été lancée au début du XXe siècle, donc d'une sphère de la conscience. On n'est plus seulement la biosphère, on n'est plus la lithosphère encore en dessous, mais réellement une prise en masse de nos consciences humaines, non pas qu'il n'y ait qu'une seule conscience humaine, il ne s'agit pas de dire ça, mais en tout cas une mise en réseau. Et évidemment, cette mise en réseau peut avoir les meilleurs côtés, c'est-à-dire le partage des connaissances, des responsabilités, mais aussi la prise de pouvoir de certains sur les autres. Donc c'est ça le problème. Et le seul fait qu'on ait quelques grands acteurs au niveau d'Internet et que d'autres disparaissent peut nous poser question. Et là, il y a vraiment une question éthique, c'est-à-dire de prendre conscience que nos techniques on le savait déjà, mais il faut sans cesse le remettre devant nous, nos techniques nous changent énormément, nous changent notre rapport à la réalité, notre rapport les uns aux autres, en bien comme en mal. On revient, vous disiez rapidement tout à l'heure, vous citiez le nom de John Kennedy, ce que John Kennedy disait en 61 au moment de lancer la course à la Lune. On rentre dans un nouveau domaine qui s'appelle l'espace. Il avait à peine été le frotter comme ça, rentrer dans... Eh bien, c'est à nous de choisir si on veut en faire un océan de paix ou un nouveau théâtre de guerre. On est exactement dans la même situation, et en permanence. On a besoin des ingénieurs pour se rendre compte de ça. Je raconte quelques histoires comme ça, où l'ingénieur qui arrive un peu naïvement, en disant « on a des trucs extraordinaires », sans se rendre compte que ça peut radicalement changer la face de nos sociétés. Donc, c'est pas à eux de faire le choix, mais c'est à eux de dire à la société « attendez, avec vous, on veut réfléchir aux conséquences ». Donc, attention au sens où prêtons attention.
Alors, on a bien compris, vous lancez la réflexion sur ces questions. Est-ce que vous estimez être le Winston du roman de George Orwell ?
Non, pas du tout. J'ai pas la prétention d'être le héros. En plus, il termine un peu dramatiquement, mais vous savez, on me le fait d'ailleurs remarquer en me disant tout simplement, mais quel est ton rôle au CNES ? Est-ce que tu es un empêcheur, un réel empêcheur de penser en rond, comme disent certains ? Ou est-ce qu'en fait, une espèce de couverture, de bonne volonté, puis comme ça, derrière, on fait n'importe quoi ? Oui, je dirais les deux dangers existent, parce qu'il ne s'agit pas d'empêcher les gens de travailler, il ne s'agit pas non plus de leur servir de couverture. Une fois encore, c'est de leur rappeler qu'ils sont humains, que s'ils font bien leur travail d'ingénieur, mais on pourrait mettre ça dans d'autres domaines, nécessairement, ils pensent et ils agissent. Et penser et agir aujourd'hui, on ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Il s'agit de le faire de manière, collective, collégiale, académique, puisque nous sommes un lieu où justement, c'est bien un corps qui réfléchit. Et parfois, il faut être simplement celui qui rappelle, prenons un peu le temps de penser.
Alors, pour terminer cette émission, avez-vous une vision de l'avenir plutôt optimiste ou au contraire pessimiste sur ces notions de vigilance et surveillance, selon les gouvernants, selon les sociétés ?
Oui, j'allais dire, j'ai du mal quand on me pose cette question-là. J'ai simplement une immense confiance dans l'être humain. Au sens où ceux qui ont tendance à dire « de toute façon, c'est fini, il n'y a plus rien, autant se jeter dans la Seine ou ailleurs, ça dépend quel est le fleuve qui passe en dessous de chez vous », ceux qui disent « mais de toute façon, il n'y a pas de problème, on va découvrir une nouvelle technique, etc. », je crois que là, une fois encore, c'est entre les deux. L'humain, c'est, et j'aime quelquefois rappeler non seulement la figure, mais aussi les œuvres d'André Malraux, relisez ses titres, « La condition humaine »,« L'espoir », mais aussi « Les conquérants ». Autant de recherches de cet homme, quel que soit tout ce qu'on peut penser de lui par ailleurs, d'aller creuser qu'est-ce qui caractérise l'homme. N'allons pas chercher des choses extraordinaires, revenons simplement à l'humain. Et dans un de mes chapitres, je rappelle cette histoire de Cain. On parle de frères, on parle de deux frères, dont l'un qui tue l'autre. Cain tue Abel. Et après, on connaît cette histoire qui était tellement mise en scène par Victor Hugo qu'aujourd'hui, on lit plus le texte d'Hugo que le texte de la Genèse, mais c'est pas grave, au sens où c'est vraiment « mais qu'as-tu fait de ton frère ?» Et nous, nous sommes aujourd'hui, en quelque sorte, les nouveaux Caïn, ça veut pas dire qu'on a tué notre frère. C'est simplement que nous sommes bien les responsables des uns des autres. Et après, ben, on construira. L'optimisme, le pessimisme, je trouve que c'est une... Pourquoi les poser d'avance ? Nous verrons bien ce que nous sommes capables de faire. Puis ensuite, on dira si on a eu tort ou si on a raison, si on s'est momentanément trompé ou au contraire, si on avait fait le bon choix.
Eh bien, je vous remercie. Jacques Arnoux, je rappelle le titre de votre ouvrage « La Terre d'un clic, du bon usage des satellites » aux éditions Odile Jacob, avec 3 chapitres, « Le nouveau théâtre du monde »,« S'échapper », point d'interrogation, et puis vous le disiez, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Voilà, autant de titres, on va dire, à la André Malraux, si vous me permettez.
Oh là, vous êtes trop gentil, merci.
Merci, et donc à bientôt pour un prochain ouvrage. Merci.